Bienvenue au Podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. Le Podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produit technologique innovante, communément appelé SaaS, plateforme web, application web ou mobile, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Partageons trucs, astuces, histoires à succès ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le Podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'OpenMind Technologies. DEV, le chiffre 2, CEO.com, aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leur idée d'application logicielle afin d'en faire un succès d'envergure. Cette semaine, je m'entretiens avec ma collègue Christine Dalvedov, qui est Product Owner dans l'équipe d'OpenMind et de Dev2CEO, et on aborde les 9 erreurs à éviter dans un développement de logiciels sur mesure. Avant que le podcast débute, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications sur votre plateforme de balado préférée afin d'être avisé chaque semaine des nouveaux épisodes. Sur ce, bon podcast! Christine Dalvedov, merci beaucoup d'être avec nous cette semaine. Comment vas-tu?
Salut Jonathan, ça va super bien, merci. Un tantinet nerveuse d'être ici, mais je pense que ça va passer vite. Je ne m'en rendrai pas compte, ça va être terminé.
toujours un petit 2 minutes de stress au début. Peut-être aussi stressant que moi de dire ton nom de famille, mais c'est correct.
Mais t'as bien fait ça, ça a bien été.
Merci. Moi, j'ai le droit au visuel, hein. Donc, pour ceux qui nous écoutent, Christine m'a fait des gros yeux, donc j'étais pas certain que je le disais correctement pour la 6e fois de pratique. C'est donc, voilà, je pense. Donc, ça vous donne un petit peu le ton. Je pense qu'on va avoir du plaisir dans ce podcast-là ensemble. Toujours un petit aspect nerveux, nervosité. C'est normal, Christine est pour la première fois avec nous. Mais Christine, je suis super content que tu sois avec nous cette semaine. Une belle et grande expérience, entre autres avec nous chez OpenMind. Tu gères beaucoup de projets pour des clients. Et là, on discute souvent derrière le rideau de la scène entre nous dans l'équipe. On se dit, mon Dieu, ça serait le fun de sortir un podcast où qu'on couvre les plus grandes erreurs, les erreurs les plus importantes à éviter dans le développement d'une plateforme technologique. Et là, on s'est mis à brainstormer et on est arrivé avec le top 9 erreurs qui sont les plus importantes qu'on voit là au day-to-day dans les projets. Vous allez voir, il y a une section qui va couvrir des erreurs qui sont faites du côté client, mais des erreurs du côté du partenaire ou du fournisseur. Il y a des erreurs également qui peuvent être faites du côté de la vision stratégique du produit, des utilisateurs finaux, de l'aspect sécurité. Donc, on va se promener là vraiment à gauche et à droite. Et on n'a aucune idée si ce podcast-là va être séparé en 2 épisodes parce que à 9 points à discuter, on veut pas dépasser là, le 30 minutes à peu près. Donc, ça se peut qu'on le coupe en 2 en plein milieu, mais qu'on continue l'enregistrement et qu'on vous le diffuse sur 2 semaines. Donc, on s'excuse si ça coupe en cours de route. Donc, on part avec la première erreur qu'on a dénotée. Donc, erreur numéro 1 à éviter, c'est de pas avoir la bonne personne comme gestionnaire du projet du côté client. Christine, peux-tu nous parler un petit peu de ça?
Oui, exact. La première question, c'est est-ce qu'on a la meilleure personne sur le siège du gestionnaire de projet? Parce que trop souvent, on remarque que c'est le CEO, c'est le président qui occupe ce rôle-là, puis c'est une erreur majeure. Je ne pèse pas mes mots. Les CEO, c'est des générateurs d'idées. Ils ont une vision. Ils ont une idée de comment le produit doit être monté, comment ça va être vendu, ce que ça va rapporter, etc. Jonathan, tu serais la meilleure personne pour en témoigner.
Absolument.
Ton cerveau, une idée, attend pas l'autre. Hein? Par contre, la gestion requise au quotidien là, pour le développement logiciel, c'est trop micro pour un CEO. On recommande de les garder au niveau du concept général, la vision, le pourquoi. Pas le comment, puis surtout pas la solution technique. Et que Jonathan, t'es un exemple même de cette erreur. Je sais pas si tu voudrais partager un petit peu ton expérience avec Berrycast.
Absolument. On a un produit qu'on a incubé ici dans l'Open Lab chez OpenMind qui s'appelle Berrycast.com. D'ailleurs, si vous l'avez pas utilisé, rendez-vous Berrycast.com. Vous allez sauver plusieurs heures par semaine de meetings inutiles.
Erreur numéro 2.
Et ça va vous aider. Oui, voilà, exactement. Donc, j'ai été actif dans ce projet-là pendant un bon bout de temps parce que c'était une idée que j'avais, moi, de mon côté. Et je me suis rendu compte que mettais de la friction dans le processus pour réussir à arriver à un produit à succès. Entre autres parce que, comme beaucoup de présidents d'entreprise, comme Christine dit, on a plein d'idées en tête, on a On est souvent convaincu et convaincant qu'on a la vérité. Donc, avec cette vision-là ou avec ces éléments-là, on vient souvent ne pas nécessairement mener l'équipe dans la bonne direction, puis on vient souvent changer de direction,
oui.
Le projet, qui fait que l'équipe, au bout de la ligne, ne sait pas où aller, puis souvent ne va peut-être pas dans la bonne direction, parce que c'est pas vrai parce qu'on est président et qu'on a l'idée qu'on sait où exactement faut amener l'idée. C'est plutôt nos clients qu'on vise qui ont la vérité en main. Et trop souvent, moi, de mon côté, je pensais que j'avais la vérité en main. Là, je parle au jeu par rapport à Berrycast. Et j'ai mis beaucoup de friction dans le processus. Et au bout de la ligne, ça sert pas pour le projet, pour l'amener à succès au bout de la ligne. Donc, dans mon cas, à moi, j'étais un extrême perfectionniste. Donc, le fait que je sois perfectionniste, quand je tombe dans les détails, je vais m'enfarger trop souvent dans des détails pas importants. Et souvent, quand j'ai une idée, je suis convaincu que j'ai la bonne et meilleure idée. Et là, toute la force de l'équipe autour, elle est diminuée parce que l'équipe est souvent là dans le développement de produits pour trouver ce que le client réel qui va payer au bout de la ligne a de besoin et non pour ce que moi j'ai en tête qu'on pense que le client a de besoin au bout de la ligne.
Exact. Il faut garder les CEO dans la vision, puis après ça, ça prend quelqu'un pour l'exécution. Fait que la meilleure pratique ici, c'est de nommer soit un power user ou tu sais une personne qui sera un point d'attache côté client. Cette personne-là, elle va suivre avec le PO, avec moi, là, à chaque sprint, le projet, le suivi du budget, l'échéancier, la portée, la qualité. Puis cette personne-là, c'est une idéalement là, c'est aussi un vrai utilisateur ou cette personne-là intègre d'autres utilisateurs aussi dans la loupe. Puis c'est là qu'on vient vraiment chercher, comme tu expliquais, l'expérimentation des utilisateurs finaux dès le départ et non pas la vision qui reste un petit peu dans la tête du CEO. T'sais, chez OpenMind, on a les comités de gouvernance qu'on fait avec nos clients à chaque 3 mois. Puis c'est vraiment à ce moment-là que le CEO va être impliqué. C'est sa vision, on vient vraiment regarder avec lui où est-ce qu'on est rendu dans le projet, c'est quoi les prochains milestones, etc. Mais un coup qu'on part de ce meeting-là, c'est vraiment le gestionnaire côté client et le PO qui travaillent ensemble pour livrer ses objectifs. T'sais, c'est pas compliqué. Chacun a son rôle, puis chaque rôle est super important, mais il faut comme connaître les limites de ces rôles-là puis s'y tenir. Sinon, on tombe très vite, comme t'expliquais, un petit peu dans le chaos. T'sais, ça tire de tous les bords. On sait plus où donner de la tête.
Et là, pour être clair, ce n'est pas de pas être impliqué en tant que président dans le projet, mais c'est de ne pas s'impliquer à un niveau des exact. Virgules et des petits détails.
Exact.
Donc, c'est ça le rôle d'un gestionnaire de projet du côté client ou d'un gestionnaire du produit du côté client. Ouais. C'est beaucoup de la gestion de virgules, c'est beaucoup des petits détails. Et là, on tombe plus en mode exécution que vision, leadership et stratégie à ce moment-là. Donc, le président doit être impliqué, c'est sûr et certain, mais pas au niveau de la virgule.
Oui, merci de la précision.
On va être clair là-dessus.
Oui, absolument.
Exactement.
Impliquez-vous,
et donc,
mais...
Et c'est ça, le président a son mot à dire, il y a la direction générale à donner, il y a la vision de s'assurer de concrétiser ça, mais après ça, dans la gestion de la virgule, c'est préférable qu'il y ait une personne qui s'occupe de cette gestion opérationnelle-là au bout de la ligne pour le bien du développement du produit au final.
Exactement.
On saute maintenant à la deuxième erreur qu'on a notée dans nos top erreurs, c'est avoir un dragon à deux têtes.
Oui.
Et là, je vais te laisser expliquer. Qu'est-ce qu'un dragon à deux têtes, Christine?
Ben, écoute, c'est assez simple, ça vient souvent avec la première, là, trop de chefs dans une cuisine. C'est connu. Je pense que tout le monde le sait, ça marche pas. Tous les couples pourraient en témoigner, hein. Ça prend des rôles clairs dans une cuisine. Il y en a un qui lead, il y en a un qui est sous-chef. Avoir deux personnes, deux dragons au même titre, ça coûte extrêmement cher en rework, en travail en double, cette dynamique-là. Fait qu'en fait, humainement, tu l'as dit tantôt, là, on pense tous qu'on a la meilleure idée. Fait qu'imagine deux Jonathan sur Berrycast. Qu'est-ce que ça leur aurait donné? Mais tu sais, c'est vrai. C'est vraiment ça. Le problème, c'est que les deux pensent qu'ils ont raison. Les deux nourrissent le PO, moi et l'équipe, avec des demandes des fois contradictoires. Ça peut arriver. Mais c'est surtout le travail en double de on fait, on défait, on refait, qui coûte cher en dollars et en temps. Fait que ce qu'on recommande, c'est de s'en tenir à un gestionnaire qui est mandaté, comme on a dit à l'erreur numéro 1, pour prendre les décisions au quotidien. Après ça, plusieurs dragons au niveau du comité de gouvernance, au niveau de la vision, puis tout ça, aucun problème. Mais dans l'exécution, encore une fois, ça n'en prend qu'un seul. Fait que erreur 1 et erreur 2 se touchent, se parlent, mais une seule personne au quotidien.
Et pour l'avoir vu dans certains projets de notre côté, quand les deux têtes du dragon sont là dans une rencontre,
oui.
Ça l'étire énormément la rencontre parce qu'il y a beaucoup de négociations entre les deux têtes, ce qui fait que souvent les meetings ne sont pas aussi productifs. Mais quand il y a juste une des deux têtes, ben quand l'autre tête est là dans une autre rencontre, souvent elle va contredire ce que l'autre a dit, puis là l'équipe ne sait plus sur quel pied danser. On va à gauche, on va à droite, on revient, et là ça fait des projets que souvent le client lui-même dit « Mon Dieu, que ça a coûté cher pour arriver à ça au final. » parce que il y avait deux personnes qui donnaient la direction dans l'opérationnel et ça devient vraiment, vraiment problématique. Donc, à éviter à tout prix, dragon à deux têtes, à faire attention si on veut arriver à un produit à succès. Troisième cas d'erreur problématique, négliger le fait de s'élever au niveau connaissance technique et d'être curieux du côté client. Christine, parle-nous un petit peu de ça.
En fait, une très grande erreur de la part du client, là, ça va être le manque de curiosité puis une connaissance très minimale puis on veut s'en tenir. En fait, l'erreur, c'est de vouloir s'en tenir à une connaissance très minimale de ce que ça implique faire du développement logiciel. Fait que, tu sais, encore une fois, on l'a dit, l'objectif, c'est d'avoir la vision puis tout ça, mais il faut quand même comprendre le marché, le domaine, puis être intéressé à comprendre la réalité que ton fournisseur technologique vit tous les jours. Fait que de dire la phrase, puis tu l'as dit très bien, Jonathan, là, comment tu dis ça?
Je pourrais le mentionner. J'ai peut-être pas la bonne phrase, je veux dire, mais souvent, le meilleur indicateur qu'un client fait cette erreur-là, c'est quand il y a un problème, puis il nous dit, c'est vous les experts, c'est vous qui devriez gérer ça, puis c'est votre problème à vous. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que c'est juste de prendre la problématique et de lancer d'un côté de la clôture alors qu'on est supposé de travailler en équipe. Et très souvent, le problème qui est causé, c'est par une non-connaissance ou une non-curiosité du client. Puis je m'explique en cas concret. Les bugs dans un développement logiciel, ça fait partie d'un développement logiciel. Il existe des études qui sont très poussées là-dessus, dont la loi de McConnell, qui est un des épisodes de podcast que je vous intéresserai à écouter si vous faites un développement logiciel. Faut connaître comment ça fonctionne. Faut connaître c'est quoi les ratios de nombre de bugs par 1000 lignes de code. On parle souvent entre 15 à 50 bugs par 1000 lignes de code. Le client s'attend à ce qu'il y en ait zéro. C'est impossible, à moins qu'il soit prêt à mettre 100 fois le budget d'assurance qualité finale. Et ça, faut comprendre ça. Donc, la journée où ce que le client nous dit, il est pas supposé d'avoir de bugs, j'ai payé, mais qui a pas eu la chance de s'exposer à cette connaissance-là ou du moins d'avoir la curiosité. Ça crée des conflits, mais c'est la réalité d'un développement logiciel. Les bugs font partie du processus. Il faut travailler ensemble, main dans la main, pour les réduire et limiter les problèmes et les corriger en cours de route. Donc, exemple, le client doit s'impliquer dans l'expérimentation puis la validation, donc les tests avant mise en production. Et des fois, le client le fait pas. C'est juste par une non-connaissance ou une non-curiosité du processus. Et le fait d'être éduqué là-dessus vient grandement multiplier les chances de succès du produit à la fin. Et au moins, ça permet au client de s'impliquer aux bons endroits et d'enlever de la friction dans le processus, ou du moins de rajouter de l'huile dans les engrenages pour vraiment ne pas passer du temps dans des endroits qu'il faudrait pas, puis de le maximiser aux endroits où ce qu'on devrait. Donc, je sais pas si c'est cette phrase-là, Christine, que tu dis, c'est celle-là.
C'est exactement ça. Puis une autre qu'on dit souvent, c'est on n'est rien sans le client. T'sais, puis là, on l'a dit à plusieurs égards, il faut aller chercher le besoin, ça prend les utilisateurs finaux, puis tout ça, mais il faut que le client s'implique, puis veuille s'impliquer, puis élève ses connaissances. Puis là, pas pour prêcher pour notre paroisse, mais le podcast Pivot est un bon point d'entrée et source de données là pour qui touche à vraiment plein de sujets. T'en as nommé un, mais il y en a vraiment beaucoup. C'est un bon point d'entrée pour n'importe qui, client, autre, qui veut en apprendre davantage sur la réalité. Puis, il faut pas avoir peur de demander à ton fournisseur techno, là, dans notre cas, ça serait nous, mais des lectures, des podcasts, des vidéos, des formations, etc. Puis, c'est pas demandant en termes de temps. Là, je veux dire, un podcast, bon, à part nous aujourd'hui, que ça va prendre 2 heures, là, mais en général, 30 minutes, t'en es sorti avec une liste d'apprentissage et tout ça. Fait que c'est super important. Puis, votre partenaire peut vous pointer sur plein de références, de sujets qui va vraiment toucher à votre projet. Fait que ça, on le recommande, un client renseigné en vaut deux. Puis là, on parle pas du dragon à deux têtes, là, mais juste 2 fois plus de connaissances.
Et on le voit, en tout cas, nous, notre côté chez OpenMind et chez Dev2CO, on veut vraiment maximiser chaque dollar que le client investit dans une solution avec nous, dans un développement avec nous. Et pour maximiser ces dollars-là, plus le client prend du temps pour s'éduquer puis connaître les méthodes de fonctionnement, connaître comment bien s'impliquer dans le projet, comment enlever de la friction dans le processus puis s'arrimer avec les méthodes, les bonnes méthodes de l'industrie qu'on implante dans le projet, ça fait toute une différence. On est capable des fois de faire 2 fois plus avec le même budget ou 3 fois plus si le client est bien arrimé au niveau connaissance. Et c'est une des raisons pour qu'on a lancé ce podcast-là. Donc, allez vous abreuver des autres épisodes qui sont au niveau technique. Ça va tellement vous donner un bon retour sur investissement au bout de la ligne. On saute maintenant au quatrième erreur. On laisse le client. Oui. On a assez pointé le client. Maintenant, puis on veut faire partie de la solution qui est une de nos valeurs. C'est pour ça qu'on parle de connaissances. On fait partie de la solution en livrant du contenu comme celui-ci. Maintenant, on se concentre plus sur le côté de développement du produit, plus technique. L'erreur numéro 4, trop coder avant de livrer.
Oui, ma préférée. L'erreur numéro 4, c'est de vouloir passer trop de temps à être parfait. Trop mettre de fonctionnalités qui servent pas nécessairement à tester nos hypothèses. Puis l'objectif, l'objectif premier, ça devrait être d'aller valider tes hypothèses, valider ta proposition de valeur au marché. Fait que l'humain, encore une fois, a tendance à vouloir en mettre trop, à en donner plus que le client en demande. Dans le cas d'un développement logiciel, ça peut être extrêmement coûteux de le faire. Puis on peut aussi très vite s'enligner dans la mauvaise direction. Fait que la meilleure pratique, là, c'est celle qui est définie dans le livre, ou du moins une des meilleures pratiques, là, dans le livre de Lean Startup, qui est une bible pour tout entrepreneur qui veut lancer une idée de produit techno. Des erreurs et des recommandations, il y en a dans ce livre-là, mais celle-là, c'est clair, il faut aller valider nos hypothèses au marché le plus rapidement possible, valider qu'on a un produit qui se tient et qui va être rentable en sortant le plus rapidement possible un MVP. Un MVP, on en a parlé dans d'autres podcasts, là, c'est un produit minimalement viable. Moi, je préfère the most viable product que minimalement, mais c'est ma personnalité. L'erreur qu'on fait souvent là en définissant un MVP, c'est qu'on pense exclusivement fonctionnel, alors qu'un vrai MVP là, ça doit être fonctionnel, mais utilisable, attrayant, pratique et utile pour l'utilisateur. L'objectif d'un MVP, ça doit répondre à la question comment puis-je aller valider ma proposition de valeur et non pas c'est quoi le minimum de fonctionnalité pour livrer un petit peu de valeur. Fait que ça, c'est une erreur qu'on fait souvent, qui coûte cher. On veut tout mettre. On pense que cette fonctionnalité-là, celle-là, le client va aimer ça, il va être wow. C'est pas le moment de faire wow au client, c'est d'aller valider que tu as une proposition de valeur qui va répondre à un marché X. Fait qu'on l'a vu dans plein de clients de projets trop souvent, là. Puis souvent, ce que ça fait, c'est que des fonctionnalités ne seront pas utilisées. Dans la réalité, ça coûte cher à maintenir. Donc, il y a vraiment beaucoup de pas d'erreurs, mais de conséquences à cette erreur-là. Elle est très coûteuse. Elle est beaucoup moins coûteuse d'y aller avec la version MVP et de sortir le plus rapidement possible quelque chose qui est pas seulement fonctionnel, mais qui est utilisable, qui est agréable, qui est agréable, puis qui va être utile pour la personne, l'utilisateur, en fait. Fait que c'est bon pour tout le monde. Voilà.
J'adore ce que tu apportes, Christine. Le livre Lean Startup, entre autres, moi, ça a été une bible que j'ai pratiquement utilisé ce livre-là comme oreiller pendant la première année ou deux de Barrycast. On vous le recommande beaucoup. Puis il y a beaucoup du contenu aujourd'hui puis dans le podcast qu'on vous sort qui est très collé à cette philosophie-là. Maintenant, il y a une phrase dans le développement de produits techno, surtout dans l'industrie des startups, qui est « si vous livrez quelque chose puis qu'il n'y a pas de bug dedans, c'est parce que vous avez pris trop de temps puis vous avez livré trop tard à ce moment-là. » Donc, c'est triste à dire, on veut toujours avoir un produit parfait au départ, mais le but, c'est pas de valider si on est parfait, si c'est correct, c'est de valider des petits morceaux puis de mettre en production une partie du système pour éviter d'accumuler une dette à adresser en termes de correction de fonctionnalité ou de maintenance de fonctionnalité. Donc, plus vite qu'on livre, plus vite qu'il risque d'avoir de la valeur. Puis même si au net, pour l'utilisateur final, il y a une valeur nette déficitaire, c'est correct, ça fait partie du processus. On a des fois des développements qu'on fait, puis les clients disent non, faut attendre qu'il y ait telle fonctionnalité de plus ou tel jeu de fonctionnalité en place pour que l'utilisateur l'utilise. Honnêtement, on fait juste étirer l'élastique, puis à un moment donné, ça va causer un problème. Donc, plus vite on livre, plus vite qu'on met en production, mieux que c'est, on ajuste par après, on corrige les bugs. Faut rester raisonnable qu'on livre pas en production pour tout le monde, à large, grand public. Exactement. Rendu là, c'est par petite cohorte d'utilisateurs pour peaufiner le produit puis de l'amener vraiment à quelque chose qui est plus poli à travers le temps. Oui. Cinquième erreur. Vite. Voilà, on bouge vite. Trop de fonctionnalités, pas assez de maintenance.
Oui, écoute, ça touche l'autre, mais avoir une trop grande liste de fonctionnalités au détriment d'adresser les bugs et adresser la dette technique aussi. Et je pense qu'il y a aussi un épisode sur la dette technique, là, mais le refactoring, la refactorisation, ça consiste à améliorer la structure interne du code sans changer le comportement externe. Fait que c'est... La conséquence là, de pas effectuer du refactoring régulièrement, ça entraîne une accumulation de dettes techniques, puis ça peut rendre le code très difficile à maintenir. Fait que ça, le plus rapidement qu'on est capable de l'adresser puis d'en rentrer petit à petit, le mieux c'est. Encore aujourd'hui, le fait vécu, j'ai calé un statu quo sur le développement de fonctionnalités dans un produit qu'on a en production parce qu'il fallait stabiliser les applications. Trop de bugs commençaient à sortir au quotidien. Il y avait un plus grand volume d'utilisation au quotidien et tout ça. J'ai calé le statu quo. On arrête de développer des fonctionnalités. Il faut aller le traiter. Par contre, l'idéal, ça aurait été au fur et à mesure de rentrer des dettes techniques et d'adresser ces bugs-là au fur et à mesure. Fait qu'on n'est pas parfait à personne, mais ça vaut la peine. Il faut souvent arrêter si possible. Puis je pense qu'il y a un terme là en anglais, là, je me souviens plus de ce terme technique pour moi, là. Mais de juste arrêter le développement, on clear ce qu'on a à clearer, on fait le ménage et on repart. La meilleure pratique, c'est vraiment de le dresser au fur et à mesure. Puis pour ça, il faut prévoir un budget, bien sûr. Fait que c'est pas un frais caché, c'est pas une surprise. Faut pas que ce le soit pour le client. C'est un budget qui est prévu dans le développement du produit. Il faut que ce soit aussi au fur et à mesure, donc pas seulement après la mise en production. Là, c'est tout au long du développement, ça va arriver. Donc on recommande, je pense, à peu près un 15 à 25 % dépendamment de la grosseur du produit. Jonathan, tu pourras confirmer là. Mais de prévoir ça pour adresser les ajustements, les bugs et la dette technique en cours de route.
Vous avez une idée de produit techno à développer et vous vous demandez « suis-je prêt à le faire? » Bonne nouvelle, dev2co.com rend à votre disposition un mini questionnaire gratuit en ligne qui vous permettra de parfaire votre réflexion et surtout de valider à quel point vous êtes prêt ou non à démarrer le développement de votre idée technologique. Rendez-vous au dev2co.com/évaluation, D-E-V le chiffre 2, CEO.com/EVALUATION. Sur ce, de retour à l'épisode en cours. Et on parlait de l'épisode sur la dette technique, épisode numéro 8, qui on explique dans le fond qu'est-ce que signifie, c'est quoi la définition d'une dette technique et comment la traiter au sein de votre développement de produit. Donc, on a un bel épisode qui a été fait juste là-dessus qu'on vous invite fortement à écouter. On parlait également de la loi des bugs, qui est la loi de McConnell, l'épisode numéro 10. C'est l'épisode numéro 8 et 10. Si vous faites un développement de produit ou vous pensez en faire, c'est un must. Allez absolument écouter ces deux épisodes-là. Ça va vous sauver beaucoup de sous et au moins, vous allez savoir comment vous arrimer avec votre partenaire technologique. Donc, tout à fait d'accord avec toi, Christine.
Merci.
Donc voilà, on arrive numéro 6, ne pas avoir défini tous les personas dès le début. Que veux-tu dire par là, Christine?
Mais là, on rentre dans l'autre sphère, donc on sort un peu du développement produit, on rentre dans les utilisateurs. Donc les personas, c'est qui les gens qui vont utiliser l'application? L'erreur 6, c'est de se rendre compte à la fin, donc une fois qu'on a livré le produit, que nous avions oublié des gens. Fait que l'idée, c'est vraiment, est-ce que faut se poser la question dès le début, est-ce qu'on a nommé, trouvé tous les utilisateurs finaux qui vont avoir à, de près ou de loin, travailler avec l'application? Et c'est comme un peu un « où est Charlie? Là? Est-ce qu'il nous en manque un? » Et la meilleure pratique, c'est dès le début du mandat, donc la prise du mandat, de faire l'exercice de registre de parties prenantes et l'exercice de RACI. Je crois encore une fois que Joanie Robitaille en parlait dans l'épisode là, de comment réussir un déploiement en production. Là. Super important de nommer dès le départ qui seront les intervenants qui vont avoir de près ou de loin à toucher à l'application, mais surtout dans le projet aussi. Fait, qui doit être consulté, informé, qui va être responsable, qui va approuver des éléments du produit. On doit savoir tout le monde qui va toucher à l'application. Par la suite, c'est l'analyse d'affaires qui, lui, doit bien définir les power users puis c'est qui les détracteurs possibles du produit. À cette étape-là, on définit les personas. Fait que là, il faut faire gaffe de pas en oublier le fait vécu, encore une fois. C'est pour ça que ça se retrouve ici, là. Je veux dire, c'est le palmarès de nos erreurs. Livré en production, pour se rendre compte le jour du déploiement que nous avions un nouveau persona. En fait, c'est pas un nouveau, il était là, mais personne ne l'avait parlé et nous non plus, on n'avait jamais questionné. Donc, dans deux cas différents, le comptable et l'adjointe administrative qui sort des rapports de cette application-là qui n'ont jamais été mentionnés, donc ça n'a pas été pris en compte. Ça va toujours arriver des ajustements post-déploiement. Là. On s'en sort pas. Qu'on oublie ou qu'on n'oublie pas de persona, ça va arriver. Par contre, si on oublie une personne complète, un humain qui travaille avec l'application au complet, ça peut non seulement entraîner des frais supplémentaires de développement, bien sûr, mais aussi du refactoring, comme on a parlé, de la dette technique, mais encore une fois, retarder la mise en production. Puis ça, on veut pas. Quand on se fixe un objectif, on l'atteint. Pour éviter ça, comme j'ai dit, le RACI, le registre des parties prenantes, bien définir les personas. Et l'idéal, encore une fois, c'est de le mettre dans les mains de l'application, des utilisateurs finaux le plus rapidement possible. Parce que si on le donne à trois personas qu'on avait bien définies, eux vont peut-être aussi se rendre compte dans leur quotidien en faisant les manipulations puis en expérimentant avec l'application. Ah, ben là, j'ai telle personne, j'ai Nicole qui aussi va devoir faire ça. Super important, on y revient toujours, là. Il faut mettre dans les mains le plus rapidement possible l'application, que ce soit dans un environnement test, hein, UAT qu'on appelle, mais le plus rapidement possible.
Et c'est vraiment intéressant parce que ça rejoint les cas qu'on parlait un petit peu précédemment. Une des choses, c'est que la phrase que tu disais qui était super pertinente, on est aussi bon que ce que le client nous transfère comme information. Oui. Donc, on a beau poser un paquet de questions, faire des exercices comme le RACI, mais si le client nous dit pas que le comptable, à un moment donné, va faire partie du processus, eh bien là, ça devient problématique. Et c'est là que le fait de livrer rapidement des petits morceaux de l'application va nous permettre de découvrir ces zones grises-là que le client ne nous a pas transmis comme information malgré les exercices qu'on a fait. Oui. Mais là, on peut l'attraper plus vite l'erreur et ça va coûter moins cher à l'adresser qu'un an plus tard si on a attendu tout ce temps-là pour livrer au bout de la ligne puis mettre en production. Là.
Oui, vraiment. Puis c'est pas, tu sais, je pense pas que c'est, personne le fait avec ma liste. Hein. Je veux dire, je pense qu'on oublie, on pense vraiment que, OK, j'ai quatre personnes qui vont l'utiliser. C'est les inspecteurs, c'est ci, c'est ça. On oublie, fait qu'il faut vraiment, puis de notre côté aussi, je pense vraiment que c'est, il faut le mettre, il faut l'expérimenter, puis c'est toutes les choses au quotidien qu'on se rend pas compte qu'on fait, mais qu'on fait. On pourrait avoir une grande liste là, de nos to-do là, versus tout ce qu'on fait. C'est le même principe. Fait que, je pense que le plus rapidement, on le met dans les mains, ça va ressortir aussi plein de clarifications de besoins, plein de nouveaux besoins qui n'avaient pas été pris dans le mandat initial. Mais surtout plein de nouveaux personas ou petits ajustements à faire.
Septième erreur, ne pas libérer assez son monde. Et celui-là, je le mettrais en gras, en jaune, souligné, surligné, peu importe. Christine?
Oui. Et là, vous me direz que j'ai la suite dans les idées. Là, ça revient un petit peu à l'autre, mais il faut libérer son monde. On peut pas danser seul dans ça. Hein? Fait que c'est une danse à deux si on veut gagner. Il faut être les deux ensemble. Autant qu'on impliquait le gestionnaire de projet du côté client, il faut que les gens testent. Et pour ça, effectivement, qu'il faut leur libérer du temps dans leurs tâches quotidiennes durant le développement de produits. Puis c'est là que ça peut devenir délicat ou difficile à comprendre. Il faut les impliquer. Il faut impliquer. Bon, autant. Puis là, j'ai un chiffre. Là, je vais donner un ratio. Je dirais entre 15 et 30 % là, des heures de développement du projet qui va être nécessaire à l'interne. Puis ça comprend autant le gestionnaire de projet que les utilisateurs finaux. Donc, ce chiffre peut sembler gros, mais au final, c'est tous les gens qui vont avoir besoin de tester, d'expérimenter avec l'application doivent être libérés une portion du temps. Puis là, les points d'implication, c'est autant la prise de besoin au départ, avec d'aller chercher comment les processus fonctionnent, c'est quoi, qu'est-ce qu'on veut faire avec cette application-là, l'expérimentation au quotidien, mais aussi à la fin, ou du moins idéalement tout au long du développement, la formation des employés qui vont devoir l'utiliser. Les problèmes que ça peut causer, on va apporter, si les gens ne sont pas libérés pour pouvoir expérimenter, on va des fois proposer des solutions qui ne sont pas appropriées, parce que c'est pas la bonne solution pour le problème qui est apporté. Fait que, tu sais, une hypothèse qui est pas confirmée dès le départ, puis qu'on attend la fin pour la confirmer, puis elle est infirmée, c'est un gros problème. Des problèmes de garantie aussi, fait que, tu sais, souvent, on va, en fait, puis ça, c'est tout un autre podcast qu'on pourrait faire là-dessus, mais on livre en production, il y a un certain laps de temps de garantie sur la mise en production. Si les gens n'ont pas testé, expérimenté, joué avec l'application dans ce laps de temps-là, ce qui va avoir été livré ne sera plus sous garantie. Donc là, c'est ce moment-là où est-ce qu'il peut avoir des frustrations côté client et tout ça, de faire comme pourtant, je veux dire, ça fonctionne pas. Oui, mais il y a un temps de garantie puis il fallait l'expérimenter. Fait qu'il faut vraiment libérer les gens. Puis il faut aussi s'entendre avec son fournisseur puis avec le client. Du moment que ça va être mis en production, ils vont avoir du temps pour pouvoir expérimenter. Puis ça cause aussi le dernier point qui serait, souvent on va coder des fonctionnalités pour des gens qui finalement, quand ils vont être utilisés, ne seront plus en poste. Ça, c'est effectivement aussi arrivé. On se demande qu'est-ce qui fait ce module-là. On le sait pas. Parce que finalement, personne l'a utilisé, personne n'avait besoin de ça, ou la personne du moins qui en avait besoin n'est plus là. Fait que résumé de tous ces points, quand on prévoit un développement logiciel, de prévoir déjà dans la charge de travail, puis c'est là que votre partenaire techno va travailler avec vous. T'sais. Si vous avez des crunchs du mois de pour la fin d'année, par exemple, au mois de février et mars, vous n'êtes pas disponible pour pouvoir justement expérimenter, on va travailler différemment le roadmap. Fait que tout ça, c'est super important, mais il faut que ce soit pris en compte dans un projet, autant de votre côté que du côté du fournisseur technique.
Et je vais souligner l'aspect garanti qu'on voit que ça peut coûter très cher pour quelqu'un parce qu'il n'a pas libéré ses gens pour tester dans le temps. Il faut se mettre dans les souliers du partenaire technologique. Si vous attendez 90 jours pour mentionner qu'il y a une problématique sur une fonctionnalité, nous, les équipes sont déjà sur autre chose. Ils ne se souviennent plus de ce qui a été programmé parce qu'il y a tellement de lignes de code qui passent dans une semaine ou un mois que de se remettre dans le projet pour venir corriger quelque chose nous coûte en temps et en calories mentales 3-4 fois le coût que si on l'avait adressé dans les premières journées ou premières semaines. Donc ça, c'est si vous voulez maximiser chacun de vos dollars, là, assurez-vous de libérer votre gang, vos gens, vous-même pour faire les expérimentations puis les tests puis de tout de suite ramener les éléments qui ne sont pas conformes pour s'assurer qu'on est tous sur la balle rapidement. Ça va coûter moins cher et surtout, tout le monde va être plus heureux. Vous allez être plus heureux.
Oui.
Le partenaire technologique va être beaucoup plus heureux parce que c'est pas le fun d'avoir ça comme discussion, dire au client qui nous est pas revenu à temps.
Oui.
On veut pas vivre ça, vous voulez pas vivre ça. Donc, libérez votre monde, s'il vous plaît, puis libérez-vous, c'est super important. Les deux derniers points, l'avant-dernier point, ignorer la sécurité. Ça, c'est un point que je voulais apporter particulièrement de mon côté. Puis les deux derniers points, je vais prendre un peu le relais de la parole. C'est des choses que moi, je vois qui bougent beaucoup en arrière-plan présentement, en arrière-scène. L'aspect sécurité, surtout avec la loi 25 qui a de plus en plus d'obligations d'année en année. Là, il y a encore une date butoir en septembre. Il y a tellement de gens qui mettent ça de côté en termes de s'assurer que le développement est bien fait puis de suivre les bonnes pratiques de sécurité ou du moins de dédier un budget pour faire respecter les bonnes pratiques puis réviser pour être certain que tout est correct, qu'on se ramasse avec une dette technique à travers le temps. Et présentement, avec ce qui s'en vient et ce qui est déjà en cours avec la loi 25, ça cause d'énormes risques pour vous puis vos actionnaires également au bout de la ligne. Donc, c'est plus juste, il y avait une faille de sécurité puis ça finit là et que vous avez un risque réputationnel. Il y a un risque légal et criminel également en arrière de tout ça. Donc, assurez-vous d'avoir une vue là-dessus, un budget là-dessus et de pas le négliger. Et souvent, ce qu'on voit dans les développements, c'est « Ah ben au début, c'est pas important, on le fera de cette manière-là puis on l'attaquera éventuellement. » Mais le fameux « éventuellement » est toujours en bas de la pile jusqu'à temps qu'il arrive quelque chose et que le feu soit pris. Et là, le feu est pris et on pointe qui dans ce temps-là? Malheureusement, le partenaire technologique. Et là, on fera un épisode juste là-dessus sur la sécurité. Exactement. On va faire des épisodes seulement là-dessus pour vous conscientiser là-dessus. Surtout, c'est quoi les bonnes bases de sécurité et les budgets requis par rapport à ça? Mais s'il vous plaît, ne pelletez pas le problème en avant. Et il y a des bons épisodes sur la loi 25 qui s'en vient sur le podcast Pivot. Mais également, je vous le dis en primaire, il y a un podcast qu'on va sortir qui s'appelle TI Préventive. Donc, qui aborde entre autres l'aspect sécurité au niveau de l'infrastructure technologique. Et on va aborder beaucoup ce morceau-là et la loi 25 qui s'applique maintenant depuis septembre 2022 à toutes les entreprises québécoises. Et dès septembre 2023, il va y avoir des mesures encore plus fortes qui vont être en vigueur. Et encore un autre escalier, une autre marge de plus l'année prochaine. Qui va y avoir en 2024, donc à suivre.
J'ai une primeur.
Un point à rajouter sur... Allez, vas-y, Christine,
non,
oui, c'est une primeur, exactement.
Non, mais j'ai encore l'émotion que je viens de vivre une primeur dans mon podcast. Excuse-moi, je voulais pas te couper, je voulais juste la vivre. Mais vas-y, continue.
Fantastique. Un point à rajouter sur la sécurité où c'est complet, Christine?
C'est complet,
avant
je
qu'on
te laisse.
C'est complet. Fantastique. Dernier point, je l'ai nommé « faire un Big Bang ». Et là, je vous explique c'est quoi faire un Big Bang. On est en 2023 à l'heure d'enregistrer ce podcast-là. Vous avez vu dans les médias où vous avez vécu le cas de la Société d'assurance automobile du Québec qui a engagé une grande firme à 3 lettres que l'on ne nommera pas pour un contrat qui a coûté probablement 10 fois plus qu'on pense que nous, en tant qu'experts technologiques, ça aurait dû coûter. Et vous avez vu le chaos que ça l'a fait la journée où ce qu'ils ont décidé de mettre en production ou d'allumer le système, donc d'allumer les lumières dans la pièce et dire « bravo, on allume le système et on regarde ce qui va se passer ». Moi, j'appelle ça un Big Bang, c'est de ne pas faire un déploiement progressif, graduel et de plutôt se dire à une journée, une date donnée, là, on se lance tous en bas de la falaise puis on espère que c'est pas de l'asphalte qui est en bas, mais que c'est des balles de mousse ou de l'eau puis qu'il y a des petites bubules dans l'eau. Malheureusement, c'est jamais comme ça se passe. Honnêtement, le cas de la SAC, j'avais pris des paris avec des gens dans mon entourage. Malgré la quantité de millions qui était mis là-dedans, j'étais convaincu qu'il y en avait pour 6 mois à être en mode, excusez-moi l'expression, chaotique et bordélique. Et là, je parlais avec des amis hier qui tentaient de de renouveler des choses à la SAC et ils ne sont même pas capables encore de prendre un rendez-vous en ligne. Et on est pratiquement 4, 5, 6 mois après le fameux Big Bang et c'est toujours pas réglé. Donc, dans un développement, dans une plateforme technologique que vous voulez développer, évitez à tout prix de faire un Big Bang, donc d'attendre très longtemps avant de mettre le système en production ou de ne pas regarder l'option d'aller de manière progressive pour transférer d'un système à l'autre. Si vous êtes en train de faire une réécriture d'un système, allez-y progressif, module par module, et non de provoquer, malheureusement, le chaotique Big Bang, qui est la SAC est le meilleur exemple qu'on peut donner. Phoenix aussi, au niveau du système des paies pour le gouvernement fédéral, on est, je pense, 6 ans plus tard, et c'est toujours pas terminé, ce chaos-là du grand Big Bang qu'ils ont créé. Donc, voilà ma théorie du Big Bang. Christine, un petit morceau peut-être à rajouter là-dessus?
Ben écoute, c'est comme tourner un Titanic. Il est trop tard. Là, je veux dire, ton Big Bang, ça va. Si ça frappe l'iceberg, il est trop tard, il est trop grand. Tandis que si t'as une petite chaloupe puis tu y vas morceau par morceau, ben tranquillement, t'es capable de faire ton bout de chemin. Là, c'est vraiment dangereux. Et pour toutes les erreurs qu'on a nommées en haut, là, c'est super dangereux de faire un Big Bang. On recommande encore une fois, est-ce que c'est tout le monde qui l'avait testé, même à l'interne? Est-ce que tout le monde avait expérimenté avec? Au jour J, ça s'est allumé puis c'était ça. Clairement, les utilisateurs n'avaient eu aucune préparation à ce qui allait se passer ou comment ça allait se passer. C'est vraiment dangereux. Donc, on recommande pas, là, surtout pas à personne, y aller le plus progressif possible. Puis s'il faut allumer un jour J, le faire avec le plus d'informations, de transparence puis d'avoir au moins informé tout le monde de comment ça se passera. Ça serait ma recommandation.
Exactement. Et on a une initiative qui s'appelle Legacy Recoding qui est spécialisée dans la modernisation d'applications. Notre règle numéro un dans cette pratique-là, dans ce SWAT team-là, c'est ne pas faire de Big Bang. Mm-hmm. Donc, on donne souvent l'image de vous avez un building à plusieurs étages. Chaque étage est un module qui gère vos opérations. On reconstruit à neuf un nouvel immeuble juste à côté qui est modernisé. Et on veut pas bâtir tous les étages et du jour au lendemain, on dit à tout le monde qui est dans le premier immeuble, OK, à go, vous courez, là, prenez tous l'ascenseur en même temps, puis vous essayez de rentrer dans l'autre immeuble, puis d'aller occuper l'espace de l'autre côté, puis du jour au lendemain, tout va être fonctionnel, tout va être correct. C'est impensable d'y aller de cette méthode-là. Ce qu'on veut faire, c'est on va construire la fondation pour les 10 étages, mais on va faire la finition un étage à la fois et on va transférer les gens d'un immeuble à l'autre un étage à la fois. Donc, il n'y aura pas de congestion dans l'ascenseur, il n'y aura pas de surprise et de bordel de tout réaménager parce qu'un étage n'est pas fait correctement, puis on va bâtir étape par étape. Donc, c'est une des prémices qu'on a dans notre initiative de Legacy Recoding. Même chose si vous développez une plateforme techno, évitez le Big Bang. J'ai trop vu de bordel, malheureusement, se créer. Et c'est ce qui fait une très mauvaise pub souvent au développement sur mesure et à l'industrie de la technologie, c'est que cette approche-là, malheureusement, n'est pas respectée. Donc oui, faites ça pour nous aider et pour vous aider. Exactement. Christine, merci beaucoup. On a passé à travers les 9 erreurs les plus connues ou du moins qu'on a le plus vues dans nos 18 dernières années en tant que partenaire technologique avec des clients. Et on a respecté notre objectif de moins de 40 minutes.
Wow.
Voilà, juste assez pour mettre une intro et une outro qui va nous donner un 40 minutes pile. Merci Christine de ta générosité et des exemples que tu as pu apporter aujourd'hui. Donc, ça serait un plaisir peut-être de te réinviter si tu n'as pas eu
J'ai
trop
survécu.
Vécu cette expérience. Survécu, fantastique.
Merci.
Donc voilà, merci à tous d'être des nôtres et je vous dis à la semaine prochaine. Voici en rafale quelques éléments clés que je retiens de ma discussion avec Christine cette semaine. Premièrement, le développement d'un produit techno s'apparente grandement à une danse à deux. Il faut que les deux parties mettent du sien pour vraiment arriver à un beau et un bon résultat. Et du côté client, il faut du temps et de la curiosité en continu afin d'améliorer ses connaissances pour maximiser les chances de succès du produit. Deuxièmement, il faut s'assurer d'avoir la bonne personne pour gérer les détails du projet du côté client. Ce n'est pas toujours le président la meilleure personne pour s'y affairer. Ensuite, évitez à tout prix d'être un dragon à deux têtes. Priorisez également la livraison rapide versus la version parfaite. Ne repoussez pas demain l'aspect sécurité et finalement, évitez à tout prix un grand Big Bang, soit un déploiement monstre
à une date, heure précise, mais plutôt favoriser un déploiement progressif à travers le temps. Merci à tous d'avoir été des nôtres cette semaine. Nous produisons ce contenu gratuitement pour vous. Notre récompense est votre partage, votre abonnement ou un petit commentaire. En ce sens, si cet épisode vous a plu, merci de prendre un 30 secondes pour le partager avec quelqu'un dans votre entourage ou abonnez-vous. Je vous invite à continuer la discussion sur LinkedIn. J'ai le plaisir de discuter avec plusieurs d'entre vous chaque semaine. Encore une fois, mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. À la semaine prochaine.